Alors, sans plus attendre, le premier intervenant est donc Jean-Louis Parmentier, que vous pouvez voir à la caméra ici, dont les travaux de thèse portent précisément sur la rançon et le rachat des captifs en Europe du Nord, donc entre le 7e et le 12e siècle, travail qu'il effectue sous la direction d'Alban Gauthier. Et il faut noter que ce n'est pas sa première épopée nordique, puisqu'en 2010 et 2012, il validait déjà un master qui portait sur la géographie des îles britanniques dans les sagas islandaises du XIIIe siècle, toujours sous la direction d'Alban Gauthier. Et enfin, la recherche n'est pas sa seule activité, il faut noter, puisqu'il est aussi professeur, donc certifié d'histoire-géographie depuis 2014. Et de la même manière, je vous transmets via le chat, la page chercheur de Jean-Louis, si vous souhaitez avoir plus d'informations à son sujet. Donc, c'est à toi, Jean-Louis, nous allons t'écouter. Je te laisse la
Bien,
parole.
merci Guillaume et bonjour et merci à tous d'être là pour cet après-midi. Donc effectivement, je vais vous présenter en fait mes travaux de recherche. La définition du sujet, les objectifs de cette recherche, les problématiques, les différentes difficultés. Alors, d'abord, je vais redéfinir l'objet en fait de la recherche, ce sur quoi je travaille, en expliquant, eh bien, c'est quoi une rançon. Alors, une rançon, c'est la possibilité donc qui est donnée à quelqu'un de se racheter selon un prix qui est convenu. Donc, ça peut également, normalement, ce sont les personnes, mais ça peut également concerner les biens matériels, comme je l'expliquerai un petit peu plus loin. Et globalement, les personnes qui sont rançonnées sont considérées donc comme étant captives, captives prisonnières. Alors, c'est différent des échanges ou de la remise d'otages. Donc, afin d'obtenir une garantie ou la promesse d'un serment de la part de son adversaire, ça peut mettre fin à un conflit, ça peut également, on peut également négocier le retrait de pillards. Donc, ça, c'est une pratique qui est courant, je dirais, quelles que soient les sociétés du Moyen Âge, et notamment Alfred de Wessex, hein, si on en croit Asser, a souvent recours en fait à cela pour négocier avec les Vikings, en fait. Et c'est différent également de ce qu'on appelle le tribut, de la mise au tribut, qui correspond à une contribution financière imposée. Et en général, ça concerne les cités ou les peuples soumis. Même chose, hein, c'est une pratique qui est ancienne, c'est une pratique qu'on retrouve déjà sous l'Antiquité. Et pareil, c'est pratiqué dans les différentes sociétés médiévales. Et ça revient aussi régulièrement dans les sources. Alors à côté de ça, on peut mettre d'autres pratiques qui sont en parallèle de la rançon et qui concernent aussi justement le rachat. Par exemple, on a le rachat des fautes par une compensation de type vergelde, par exemple, que l'on retrouve aussi dans les lois norvégiennes anciennes, comme le Frostathing ou le Gulathing, par exemple. Le rachat des péchés, tout ce qui est au trait justement de la rédemption. Et le paiement d'une amende au pouvoir laïque. Alors, j'ai choisi de mettre ces trois choses en parallèle du sujet parce que parfois les frontières sont ténues concernant ça, concernant le paiement d'une amende, le rachat de quelqu'un, je veux dire, pour une faute commise. En fonction des sources, eh bien, parfois c'est pas évident d'avoir la différence en fait entre tout cela. Alors, à présent, j'explique un petit peu ce phénomène de rançon comme étant une pratique récurrente en fait au fil de l'histoire. J'ai sélectionné quelques moments, hein, quelques moments plus ou moins connus dans l'histoire des sociétés concernant la rançon. Alors, une des plus anciennes mentions que j'ai trouvées concerne la Mésopotamie. On est au deuxième millénaire avant notre ère. Donc, c'est l'historien Dominique Charpin qui a surtout travaillé sur ce thème-là. On trouve des traces en fait de pactes entre aristocrates, des codes qui réglementent, qui légifèrent en fait le sort des prisonniers après un conflit notamment et le montant de leur rachat. Même chose concernant la Grèce antique. Si on prend Homère, si on prend l'Iliade, Il y a plusieurs références à la pratique de la rançon, alors notamment durant la guerre de Troie, hein, c'est l'épisode que j'ai sélectionné, où vous avez Adraste qui réclame le rachat de sa vie à Ménélas en lui promettant en retour les richesses de son père. Passons à Rome à présent. Donc, à Rome, la pratique de la rançon est assez courante. Actuellement, justement, je suis en train de lire un ouvrage qui vient de sortir sur l'histoire fiscale de la conquête romaine, donc les retombées en fait fiscales des conquêtes. Évidemment, il y a le tribut, mais il y a aussi la rançon. Et quand on évoque un peu l'intervention des pouvoirs publics, comme je le ferai après sur le paiement des rançons, eh bien là, oui, on voit que notamment, lors des guerres puniques, eh bien le Sénat pouvait être amené à payer des rançons. L'épisode que j'ai retenu, c'est un des plus connus, c'est la captivité de César, hein, par des pirates siciliens, on est à peu près vers 80. Plusieurs historiens romains en parlent, et j'aime beaucoup la version de Plutarque, c'est celle que j'ai sélectionnée, où pour Plutarque, eh bien voilà, César, tout César qu'il est, aurait fixé lui-même le montant de ce rachat. Et en plus de ça, lui ne se considérait pas comme captif en réalité. Hein, pour Plutarque, voilà, César s'accommode de la situation, considère qu'il est bien entouré, il est carrément l'hôte des pirates, en fait, en réalité. Connu également, donc j'avance un petit peu dans le temps, je prends la fin du XIIe siècle, donc on a la rançon de Richard Cœur de Lion, capturé et livré à Henri VI, qui réclame justement une rançon de 150 000 marques d'argent. Faisant un petit peu la part belle au village qui n'est pas très loin du mien, donc à Azincourt, en 1415, avec la capture célèbre de Charles d'Orléans, capturé par les Anglais. Il va demeurer leur détenu pendant très très longtemps, pendant à peu près 25 ans, car personne ne paye sa rançon qui est estimée à 200 000 écus d'or. Au XVIIe siècle, il y a un changement qui s'opère sur justement la gestion des rançons et la gestion des rachats, qui là sont clairement des affaires d'État. C'est-à-dire que les États forment de plus en plus des négociateurs qui sont chargés en fait de discuter du montant, de prendre le montant, de le payer également, tout en s'accompagnant de missions diplomatiques. Donc là, on arrive progressivement à ce qui va devenir par la suite le modèle clausewitzien, hein, un des modèles justement pour finir un conflit, de négocier. Et puis aujourd'hui, évidemment, des rançons qui sont toujours pratiquées par des organisations mafieuses ou terroristes. Bon, on peut citer au Japon les Yakuza, par exemple, la Camorra italienne, et les rançons vicielles. Alors, pour la petite histoire, la rançon, on estime que la rançon la plus chère de l'histoire, bon, serait une rançon réclamée à, on va dire, à un groupe argentin qui font affaire dans les céréales, estimé à peu près à 300 millions de dollars, 1974. Voilà, ce qui n'est pas rien. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que oui, déjà c'est un premier jalon, c'est que c'est quelque chose de récurrent qu'on retrouve à plusieurs reprises, et ce qui va différer au fil du temps, effectivement, c'est les mécanismes justement de cette rançon. Alors concernant mon sujet à proprement parler et ses problématiques, eh bien c'est d'abord essayer de traiter une période et un espace géographique qui sont peu balisés concernant justement les rançons. La plupart des travaux qui sont réalisés sur ce terme concernent principalement l'Europe occidentale, l'Europe continentale, l'espace méditerranéen, et portent sur les derniers siècles du Moyen Âge, notamment à partir du XIIe, XIIIe siècle. Donc, je pense notamment concernant l'Espagne, c'est bien traité par Hélio Pires, par exemple. Et concernant l'espace méditerranéen, bon, il y a le cas très intéressant de la Sicile, qui est au carrefour de différentes cultures. La Sicile, qui tour à tour a été sous influence byzantine, sous influence après arabo-musulmane, puis normande. Donc, c'est un cas intéressant parce que ça a passé de main en main, en fait, et un État durable n'a pas pu en fait s'implanter justement en Sicile, et c'est ce qui a permis, entre autres, eh bien les extorsions de tout type. Donc déjà, il y a ça. L'autre problématique, c'est de nuancer un petit peu les thèses avancées par John Gillingham et Matthew Strickland. Alors, je résume à grands traits ce qu'ils disent dans leurs travaux, que la rançon, en fait, eh bien voilà, ça serait surtout un phénomène lié à l'essor de la chevalerie, fin 11e, début 12e, ne se pratiquerait qu'entre personnes du même groupe social, donc par exemple contre nobles, et contre personnes en fait qui ont les codes, et de même culture. Cœur du sujet également, donc établir les mécanismes. Je parlais de mécanismes qui changent en fait au fil du temps. Donc voilà, là c'est clair. Pourquoi rançonner? Pourquoi rançonner justement en Europe du Nord entre le 7e et le 12e siècle? Quelle valeur de rachat et qui paye les rançons? De même, comprendre le rôle des intermédiaires et intercesseurs s'ils existent. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'aujourd'hui, effectivement, il y avait de plus en plus d'intermédiaires pour régler ces affaires de rançon. Qu'en est-il à l'époque? Ces rançons sont-elles plus issues des affaires privées? Est-ce que ce sont des règlements entre les personnes ou réglementés par des lois? C'est-à-dire est-ce qu'il y a une intervention publique hein, de manière systématique par rapport à ça? Comment les rançons et les rachats sont-ils décrits dans les sources narratives? Donc ça, j'évoquerai un petit peu justement les sources que j'utilise pour ça, donc le discours, hein, le discours par rapport à ça et les faits. Et j'avais souhaité également y associer les sources littéraires. Alors, bien sûr, avant le XIIIe siècle, et évidemment l'abondance des sources littéraires qui nous sont proposées, voilà, c'est essayer de sonder un petit peu hein, les matériaux que nous avons. Notamment pour le 11e, le 12e siècle, et c'est-à-dire l'imaginaire, en fait, et voir un petit peu l'imaginaire concernant les rançons et leur interprétation dans ces sources. Et puis enfin, est-il possible, hein, c'est un peu ambitieux, mais je vais essayer de reconstituer une anthropologie de la rançon pour la période traitée. Par exemple, voilà, comme je l'ai mis là, le fait de se faire rançonner, est-il considéré comme un acte honteux ou non. Alors oui, normalement, l'anthropologie ne peut se faire qu'en étudiant hein, les sociétés qu'on a face à soi. Bon, voilà, le Moyen Âge, c'est. Mais en étudiant le discours, en étant traitant, on peut essayer de voir, de comprendre la manière dont cela est perçu. Donc, à présent, donc alors, je vous présente non pas l'intégralité du corpus, hein, mais quelques parties concernant les différentes sources, donc que j'ai établi en deux grandes catégories, je l'avais précisé hein, juste avant, d'un côté les sources narratives et de l'autre côté les sources littéraires. Donc les sources narratives se déclinent de plusieurs façons. Donc, il y a bien évidemment les nombreux récits, les nombreuses chroniques, notamment bon, celle d'Adam de Brême, la chronique anglo-saxonne, ce qu'a écrit Vital par exemple, les Annales Regni Francorum. Les hagiographies, donc celles qui ont été écrites par Rimbert, la Vita Scientifique d'Annie, la Vita Wilfridi, des sources épistolaires également, où là, bon, actuellement, je suis un peu un manque de matériaux, pardon. Donc, j'ai surtout, en fait, étudié la correspondance d'Alcuin, des sources juridiques, qu'en est-il au niveau des lois romaines tardives, qu'est-ce qu'on peut apprendre également aussi des lois wisigothiques, ou bien sûr, évidemment, les lois anglo-saxonnes. Concernant les sources littéraires, donc, des poèmes, donc, nous avons Morioth, donc, c'est un poème qui est écrit par Garnier de Rouen, qui évoque justement les tentatives de Morius pour racheter en fait sa femme et sa famille, sont prisonniers des Vikings, le Carmen d'Hastings Proelio, et aussi les morceaux de poésie skaldique dont j'ai précisé qui sont intégrés dans les sagas. Concernant les chansons de geste, les plus anciennes que j'ai pu trouver actuellement, c'est la chanson de Roland et Gormont et Isambard. Alors, c'est un poème, enfin pardon, c'est une chanson de geste assez intéressante puisque, eh bien, Isambard décide un petit peu justement d'abandonner le christianisme, de combattre le roi de France. Donc, j'espère y trouver des choses intéressantes. Les romans courtois, alors, C'est un peu fastidieux de consulter toute l'œuvre de Chrétien de Troyes, mais en cherchant un petit peu avec l'occurrence de la rançon, du rachat, il s'avère que j'ai retenu quatre œuvres, donc Kygès, Yvain, Perceval et Guillaume d'Angleterre. Puis donc les sagas islandaises, que j'ai rangées plutôt du côté littéraire que plutôt du côté historique, avec notamment Elmskringla, la saga des Gilles et la Morkinskinna. Alors, au gré de mes lectures, que ce soit au niveau de la bibliographie, voire des sources, j'ai commencé un petit peu à établir un schéma sur justement les mécanismes en fait de la captivité avec ses causes et ses conséquences. Alors, parmi les causes de la captivité, il y a plusieurs raisons. Ça peut être issu de crimes arbitraire. On peut également se constituer captif. Il y a les guerres, bien évidemment, les razzias et les raids, ou alors des décisions juridiques ou coutumières, c'est-à-dire que des lois peuvent décider à un moment donné qu'une personne peut être rançonnée en fonction de ses actes. À partir de ce moment-là, quand on devient captif, quand on devient prisonnier, eh bien s'opère un changement de statut pour les personnes ou les biens capturés, c'est-à-dire que les personnes perdent une partie de leur liberté. Voilà, vous passez plus ou moins sous la tutelle de quelqu'un d'autre. Donc c'est le deuxième encadré où les personnes ont le statut soit de prisonnier ou de captif, et s'opère à ce moment-là pour le preneur une évaluation, c'est-à-dire de ce qu'on pourrait appeler la valeur utile ou la valeur d'échange de la personne ou du bien qui était capturé. Autrement dit, de cette décision va en découler les différents scénarios que vous avez justement en dessous. Ce qu'on appelle la valeur d'échange, bien évidemment, c'est qu'est-ce que ça peut rapporter. La valeur utile, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire, comment peut-on utiliser justement ce bien ou cette personne à son propre compte. Et durant ce moment-là, hein, je l'ai marqué en dessous, ce sont des choix aussi qui dépendent des délais. Si le délai est un peu plus long, eh bien oui, les captifs peuvent être assimilés à des esclaves et on peut leur donner des tâches en fait à faire. Suite à cela, voilà les différents issues que j'ai pu relever. Donc vous avez la mise à mort. Bon, voilà. Bien évidemment, la grâce ou la remise en liberté. On a aussi cette thématique d'otage hein, que j'évoquais tout à l'heure. Donc, cette personne peut être échangée contre un autre captif afin de faire valoir des accords. Vous avez la réduction en esclavage. Et à partir de ce moment-là, il y a trois sous-ensembles possibles, soit la vente sur site. Voilà, c'est ce que font les Vikings, par exemple, dans les îles britanniques. Ils décident de vendre l'esclave directement dans les îles britanniques. Vous avez également l'entrée au service du ravisseur et ensuite, ce que font les Vikings également, la vente en fait dans des places éloignées. Et puis, adjacent à cela, vous avez l'arrivée providentielle d'une personne. C'est ce que vous avez tout à gauche. Soit le rachat providentiel par une tierce personne, donc ça, j'en parlerai un peu plus loin, ou alors, voilà, si vous avez un peu plus de chance, tentative d'évasion et évasion. Bon, ce qui m'intéresse le plus, effectivement, c'est ce que vous avez là à droite, c'est-à-dire la demande de rançon. La demande de rançon par le preneur ou le captif, c'est-à-dire que le captif peut essayer, peut tenter de racheter, de se racheter sa tête, de se racheter. À partir de là, donc, il y a un paiement qui peut être convenu pour le rachat, soit par des biens. Voilà, donc, j'en parlerai après un petit peu, notamment concernant la vaisselle liturgique. Hein, ce sont des biens qui peuvent être utilisés, des biens transformés de ce qu'on possède. On peut essayer de le faire fondre justement pour le vendre, ou alors plus communément des monnaies. Ce moment-là du rachat, eh bien, peut être confié. Où la demande de rançon peut être confiée à des intermédiaires. C'est le petit encadré que j'ai mis en bleu. Ces intermédiaires qui peuvent essayer de fixer le montant, qui peuvent essayer également de négocier vis-à-vis du preneur et qui vont aussi effectivement être envoyés parfois par l'entourage même du captif. Donc là, pareil, plusieurs issues. Soit bien cette rançon est acceptée donc, et on restitue la personne et le bien, soit Malheureusement, ça peut arriver. La rançon, on l'accepte, mais on met le captif à mort. Là, je fais référence à l'épisode très connu, bon, certes un peu tardif dans le Moyen-Âge, mais du bâtard de Vorus, hein, qui avait pour habitude de rançonner des personnes qu'il avait capturées et de prendre l'argent et de les tuer. Donc, ce n'est pas sans représailles, je l'ai noté en dessous, hein, des représailles possibles par la partie qui se trouve lésée. Et puis, on peut aussi également demander une nouvelle rançon, donc une nouvelle demande d'an. Et dans ce cas-là, on revient un petit peu à la situation de départ sur une demande de rançon par le preneur. Et le dernier encadré qui se trouve juste en bas, donc une rançon qui est payée en général soit par le captif, s'il en a les moyens, ou la famille du captif, soit à partir du XIIe siècle par un ordre rédempteur, parce que des ordres rédempteurs commencent à se mettre en place, soit par des alliés, soit par des collectifs que j'ai appelés caisses communes, puisque en Angleterre, par exemple, des évêques essaient de se solidariser, essaient de solidariser justement les riches aristocrates pour justement avoir une caisse pour payer des rançons ou alors des bienfaiteurs providentiels. Voilà, ce qui va en lien en fait avec le rachat providentiel par une tierce personne. Alors, dans ce projet thèse, bien évidemment, il y a toute une analyse lexicale, hein, qui a à faire sur le vocabulaire dans les sources pour être sûr que nous sommes bien dans une affaire de rachat et non pas dans autre chose. Donc, concernant la rançon et le rachat, dans les sources latines, il y a deux formes, hein, la forme nominale et la forme verbale, bon, redemptio et redimo. On trouve déjà utilisé sous l'Antiquité, et ça peut également désigner ce que je disais tout à l'heure, la compensation. Voilà, la compensation pour acheter une faute et par la suite le rachat de l'âme. Concernant les sources que j'ai pu consulter en vieil islandais, notamment les sagas que j'évoquais tout à l'heure, on retrouve cette forme, losnargjald, donc qui littéralement peut signifier perdre quelque chose, donner de l'or, donner un tribut, donner un présent. Et Lausanne évoque en fait le rachat ou la liberté. J'aurais pu rajouter également les termes en vieil anglais, mais pour l'instant, je n'ai pas encore consulté beaucoup de sources en vieil anglais. Donc, j'ai laissé un peu de côté pour l'instant pour cette étude un peu lexicale. Voilà. Après, concernant les termes de captif et de prisonnier, bon, voilà, il y a une forme latine, en fait, ça c'est très intéressant, sans distinction pour les deux, qu'on soit prisonnier ou captif, ce qui revient le plus, c'est captivus, elle-même dérivée donc de capio qui est prendre. Et idem en vieil islandais, c'est la forme ertaka, donc taka prendre, hein, prendre justement quelque chose ou quelqu'un. Alors pourquoi rançonner? Pourquoi rançonner? Quelles sont les différentes motivations? Donc déjà, c'est toute la logique de prédation, c'est-à-dire en fait, oui, rançonner, c'est faire du butin, donc c'est clairement lucratif. C'est aussi une motivation à risquer sa vie parfois pour faire la guerre ou à partir en raid, le fait de faire du butin. Et aussi justement, à l'inverse, ça sert aussi justement à financer les guerres, c'est-à-dire qu'en fait, l'argent que vous allez récolter avec les rançons, ça peut aussi justement financer certaines guerres ou certaines expéditions. Donc on y trouve également la clémence, toute la thématique de la clémence étudiée justement par John Dillingham, que j'évoquais tout à l'heure. Alors ça permet également de limiter la violence, de limiter les meurtres en cas de conflit, donc de pacifier les sociétés. Ça permet aussi de proposer à quelqu'un de se racheter, donc tiens, on estime justement son captif, affaiblir son adversaire, hein, j'évoquais justement le butin, oui, donc on est toujours aussi dans cette logique de guerre économique. Également aussi de montrer son autorité, son influence vis-à-vis du captif ou de son groupe social. Donc c'est dans une logique de pouvoir, alors soit par des lois, par exemple, ou alors pour s'imposer dans un territoire. Quand on arrive pour faire des raids, des razzias, ça permet de montrer eh bien qu'on s'impose justement dans la région où l'on se trouve. Ça peut être aussi également par habitude, des normes, ce qui deviennent par la suite des normes, voire des coutumes. Alors, par exemple, parmi Parmi les coutumes, c'est prendre l'équipement. Voilà, prendre l'équipement après une guerre. Donc, là, on est plutôt au XIe siècle. Ça va devenir la forme standard par la suite de la rançon dans les tournois de chevalerie. Prendre l'équipement de son adversaire et lui proposer par la suite, justement, de le racheter. Et de l'autre côté, évidemment, accepter de payer une rançon, des situations qui sont plurielles également. Donc, pourquoi accepte-t-on de payer? Alors, il y a toutes ces thématiques autour de la vertu chrétienne, voilà, il y a un discours qu'on retrouve chez plusieurs auteurs où on nous dit que les richesses, eh bien, ça sert surtout à aider les pauvres, mais également à libérer ceux qui en sont dépourvus. Donc, par nécessité, aussi également de récupérer un bien précieux. Alors, concernant cela, il y a un épisode assez intéressant, c'est la rançon d'un évangéliaire par les Vikings à la fin du IXe siècle. Donc, on le sait parce que cette mention était rajoutée en fait sur l'un des folios. Donc, on appelle le Codex Aureus, et en dessous, c'est marqué Moi, Ealdorman Alfred, et ma femme, pardon, Werbourg, avons tenu ce livre de l'armée païenne. Avec notre argent pur, c'est-à-dire avec de l'or pur, et nous avons fait cela pour l'amour de Dieu et pour le bien de nos âmes, et parce que nous ne voulions pas que ces livres saints restent plus longtemps en possession des païens. Donc ça, c'est un exemple assez connu qu'on a d'un rachat, en fait, dans le livre, pour différents motifs, hein, puisqu'on retrouve dans cette mention, eh bien, le motif justement de, en fait, de plus, enfin, d'être en accord avec son âme, je veux dire, pour la suite. Donc, soit également par attachement à un proche. Alors, c'est ce qui se produit dans la vie de Saint Findan, où le père de l'histoire commence un peu comme ça. Le père de Findan, eh bien, est prêt à tout en fait pour récupérer sa fille qui est captive des Vikings. Donc, pour sauver sa tête quand on est soi-même captif. Alors. Là, je peux utiliser l'épisode assez connu mentionné par Thietmar de Mercebourg. Hein, on est en 1012, et vous avez l'évêque de Canterbury, l'évêque Aefla, qui promet lui-même une rançon aux Vikings. Les Vikings viennent, mettent à sac la ville, capturent cet évêque, et selon Thietmar, eh bien, c'est lui-même qui propose en fait une rançon afin de sauver sa vie. Donc effectivement, c'est ce qui arrive le plus souvent, je dirais, donc libérer un homme de pouvoir, hein, quelqu'un de considéré comme important, notamment quand le roi Sven du Danemark est captif, pardon, des Slaves, sa rançon est payée. Soit aussi également pour respecter un engagement, une parole donnée, quand on a donné son accord, effectivement, d'accepter la rançon et de la payer. Et puis aussi sous la contrainte, suite à une défaite. Alors, je prends Ordéric Vital, on est par exemple en 1091, on a ce Guillaume de Breteuil qui était vaincu lors d'une bataille rangée par son propre vassal, Aslingoël, qui le rançonne. Voilà, donc ça arrive, des vassaux qui rançonnent leur seigneur, et Aslingoël, pour le coup, a quand même été assez gourmand, il lui a réclamé 1000 livres pour justement sa rançon. Il lui a réclamé aussi ses chevaux, ses armes, et il a également demandé, eh bien, sa fille également, Isabelle, en mariage, et son château d'Ivry. Voilà. Bon. Et ce Guillaume de Bretagne, en plus, n'a pas de chance, puisqu'après, il essuie une nouvelle fois, il est rançonné une deuxième fois par son oncle, Raoul de Tosny, et est forcé de payer. Alors, je parlais tout à l'heure donc de la vertu du rachat et de l'Église. J'ai essayé de faire un traçage de cette influence, c'est-à-dire, ça vient de où à peu près? Ce discours sur la nécessité pour un homme d'église de racheter en fait des captifs ou d'utiliser ses propres ressources financières pour acheter des personnes. Alors, j'ai décidé de prendre ce que dit Adam de Brême dans ses Gesta à plusieurs reprises quand il évoque la rançon. Eh bien, Adam nous dit que c'est un bienfait important. C'est un bienfait important pour le rachat des captifs. Et lui-même cite Rimbert. Donc il cite Rimbert et il nous dit, voilà, Rimbert sacrifie jusqu'au vase sacré pour acheter des chrétiens capturés par les Vikings. Voilà, ces fameuses vaisselles hein, liturgiques que j'évoquais tout à l'heure, qui est utilisée vraisemblablement par Rimbert pour acheter des personnes. On peut encore remonter cette piste-là avec Ancher, donc son prédécesseur, hein, dans une cité par Humbert à son tour, et il nous dit, voilà, le bienheureux Ancher, ne cessait de racheter des prisonniers. Alors, cela nous amène à quelle source? Eh bien, tout ceci peut nous amener au IVe siècle à Ambroise de Milan. Dans son De Officiis Ministrorum Libri Tres, Ambroise de Milan dit que, voilà, que réclamer une rançon n'a d'autre but que la cupidité et que l'accumulation d'or n'a de justification que pour être utilisée dans le rachat des prisonniers et l'assistance aux pauvres. Donc, au IVe siècle, s'évoquait également par les hommes d'Église la nécessité, en fait, d'utiliser les richesses pour acheter les personnes. On peut encore remonter, cela rappelle ce que disait Cicéron au 1er siècle avant Jésus-Christ, pareil dans son De Officiis. Cicéron, je résume sa pensée, hein, la fortune sert à aider des amis dans le besoin, à racheter des captifs des mains des pirates. Voilà, ce sont des actes qu'il juge utiles à la République, donc utiles en fait pour le bien commun. Et Cicéron cite Théophraste, voilà, 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, dans un ouvrage que Théophraste aurait écrit, Plutos. Bon, voilà, l'œuvre est perdue, donc forcément, eh bien, la piste s'arrête là. La piste s'arrête là, c'est-à-dire que on ne sait pas de qui Théophraste tenait cet enseignement, peut-être Aristote, je ne sais pas. Mais voilà, donc j'ai essayé, ne serait-ce que pour la vertu du rachat et l'Église, de remonter un petit peu cette piste. Alors, parlons un petit peu maintenant de la méthode de travail. Donc, lors de la lecture des sources, j'essaie de noter déjà dans un premier temps, de faire une grande synthèse, sur toutes les histoires en lien avec des captifs, des prisonniers, la mise bien évidemment au rachat, à la rançon, aux tributs aussi également. Et ensuite, je tamise dans un tableau synoptique que vous avez devant vous, les événements qui ne concernent uniquement que la rançon. Donc, dans lequel je mets l'année, quand on peut l'avoir, hein, vous voyez là, juste en bas, bon, l'année est indéterminée, mais après c'est là que l'enquête historique commence, c'est-à-dire on essaie de réfléchir un petit peu à une fourchette de périodes possibles. La source qui est indiquée, donc en dessous, hein, j'ai la correspondance hein, de ces acronymes. Bon, par exemple, au début, ce sont les Annales Regni Francorum. Le captif, voilà, qui sont les personnes prises. Le lexique, bien évidemment, pour s'assurer qu'on est bien en train de parler de captif, qu'on est bien en train de parler donc de rançon et de rachat. Le preneur, voilà. La raison invoquée. Dans la source qui a fait que telle ou telle personne se sont retrouvées captives, l'issue, voilà, qu'est-ce qu'il en est après, et le prix. Vous commencez déjà à comprendre que l'une des difficultés de ce travail, c'est le prix justement des rançons, puisque oui, à plusieurs reprises, eh bien, il n'y figure pas. Alors avec tout ça, j'en ai établi quelques constats provisoires que je vais rapidement vous exposer. Alors déjà, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans plusieurs travaux d'historiens, il y a une dichotomie entre le discours sur l'idéal héroïque hein, et du guerrier et la réalité. Bon, ça, c'est pas une surprise, hein, les captifs préféreront être achetés plutôt que de sacrifier leur vie. C'est-à-dire, voilà, la détermination qu'ont les héros à se sacrifier, à combattre jusqu'au bout dans les poèmes épiques, bon, bah, ça tient pas beaucoup puisqu'on essaye justement d'éviter de se faire tuer, bien évidemment, et d'essayer de se racheter. Donc l'intervention des clercs, ça c'est un autre point très important. Je me suis rendu compte à plusieurs reprises que les clercs intercédaient souvent dans les affaires concernant les prisonniers, alors soit pour acheter eux-mêmes des captifs ou éviter leur mort, mais jusqu'à l'apparition des premiers ordres rédempteurs, à la fin du XIIe siècle, eh bien, je n'ai pas encore pour l'instant de mention de clercs qui décident de se porter volontaire, hein, pour prendre la place des captifs. On a des valeurs de rachat aussi quand on les a qui diffèrent pour des individus issus d'un même groupe social. Par exemple, le rachat d'un évêque, eh bien, ça peut varier entre 40 et 3000 livres. On a aussi donc cette pratique de la rançon qui est bien attestée entre aristocrates et peuples distincts avant le XIe siècle, de même qu'entre les individus qui appartiennent à des groupes sociaux différents ou des confessions différentes. Donc ça, on l'a chez Vidukin de Corvey, hein, qui nous dit par exemple qu'à un moment donné, un chef hongrois a été capturé par des hommes du roi Othon. Voilà, donc on est bien dans une thématique de deux peuples différentes. Et Othon a accepté qu'il soit racheté à grand prix. Voilà, donc, et donc les Hongrois, on nous dit, furent bouleversés par ça, et donc s'enfuirent. Il n'existe pas forcément une stratégie de la rançon durant les conflits, c'est-à-dire, quand je parlais tout à l'heure de la thématique de la prédation, dans certains cas, eh bien, on a des rançons qui peuvent être qualifiées d'opportunistes, c'est-à-dire que, au vu de la situation, on juge peut-être qu'il est préférable de rançonner des personnes plutôt que de les réduire en esclavage et de les vendre un peu plus loin. Je me suis aperçu aussi également que l'absence d'un État fort et centralisé, tel qu'on peut l'avoir par la suite, n'empêche pas l'intervention de la puissance publique concernant les rançons. Des lois, par exemple, existent afin de fixer les règles. Là, par exemple, j'avais trouvé dans les lois, du roi Inné du Wessex, donc on est au 8e siècle, dans ces lois, on nous dit que si un homme venant de loin ou un étranger traverse un bois en dehors des grandes routes, et qui ne crie pas, et qui ne crie, pardon, qui ne souffle pas dans un corps, eh bien, il sera considéré comme un voleur, devra accepter d'être traité comme tel, donc d'être tué, ou alors d'être mis à rançon. Et donc, la captivité également, dans le cadre d'une demande de rançon, ne s'accompagne pas forcément de mauvais traitements également. Et puis, enfin, donc, dernière constat, ou plutôt idée que j'avais eue récemment, c'est-à-dire dans les sources, eh bien, j'ai l'impression que, mais bon, c'est qu'une impression pour l'instant, que la possibilité de se racheter, eh bien, n'est pas proposée aux traîtres, aux séditieux, voire aux blasphémateurs, et que l'issue, eh bien, c'est la mort dans la plupart des cas. Alors, j'en arrive aux difficultés dans son sujet. Donc, déjà, oui. Bien, je compose avec ce que les sources me disent, donc elles sont énormément lacunaires par moment, notamment sur la valeur du rachat, puisque on a parfois des entrefilets qui sont très courts, c'est-à-dire on nous renseigne sur la situation, l'année, qui a été capturée, pourquoi et par qui, mais voilà, la valeur de rachat passe à la trappe. Concernant les périodes les plus anciennes de mon sujet, notamment le 7e siècle, et pour l'instant il y a un manque de matériaux historiques, ça c'est difficile à traiter. Pareil, quel crédit accorder au récit quand la source est unique? Voilà, donc il faut éviter les effets de source. C'est pas parce qu'une mention apparaît quelque part que c'est applicable à chaque fois et que ça fonctionnait forcément comme ça. Les phénomènes économiques sont énormément fragmentés, donc voilà, c'est l'impossibilité parfois de déterminer la valeur d'une monnaie sur le long terme. Par exemple, le talent, quand on parle qu'une personne était rachetée contre 25 talents, que vaut le talent, par exemple, au 11e ou 12e siècle? Des traductions qui, malheureusement, sont parfois trompeuses. On a l'impression d'avoir trouvé quelque chose de très intéressant. Ça m'était déjà arrivé dans une traduction française. Voilà, c'était le mot rançon qui avait été utilisé. Quand on va voir le texte en latin, eh bien non, c'était pas une rançon, c'était des déprédations, en fait, qui avaient été traduites comme telles. Ça, c'est un de mes grands défauts, savoir limiter, pardon, son corpus. Donc, oui, je suis un éternel insatisfait concernant les données trouvées. Voilà, donc j'ai envie de faire un travail quasi exhaustif, mais au bout d'un moment, oui, il faut savoir se limiter à ça et bien prendre conscience que le travail, eh bien, ne peut pas être parfait, hein, ne peut pas justement être exhaustif par rapport à tout cela. Et puis bon, j'en parle également parce que c'est une réalité également, oui, concilier la recherche avec une obligation de service à temps plein. Guillaume l'avait évoqué tout à l'heure, hein, je suis professeur à temps plein à côté de cela, donc tout ce que ça implique derrière, comme cours, comme correction de copies, voire parfois de réunions. Et donc je termine sur les perspectives concernant les mois et les années à venir, parce que j'ai choisi de faire une thèse en 6 ans. Donc là, j'arrive à la fin de ma troisième année. Donc je suis encore dans un moment où je lis la bibliographie et les sources. Donc ça, c'est pour l'année prochaine, là, cette continuation de la lecture des sources, de la bibliographie. De ça va en découler un plan, même si actuellement j'ai déjà les grandes idées de ce que je vais évoquer concernant l'analyse du vocabulaire, par exemple, l'explication des mécanismes qui, je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui qui prend en captivité, comment s'effectue le paiement, de quelle valeur. Et enfin, et pas des moindres, le travail d'écriture, voilà, qui effectivement va constituer le moment le plus difficile. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette présentation. J'espère ne pas avoir trop débordé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, eh bien je vais tâcher d'y répondre. Voilà.
Merci beaucoup Jean-Louis pour cette très belle présentation, voilà, qui m'a personnellement vraiment passionné. On a effectivement un petit temps dédié aux questions. Vous pouvez soit prendre directement la parole, soit les rédiger dans le chat. Donc je vous en prie.
Oui, Amélie, vous m'entendez ?
Oui, bien sûr, bonjour.
Bonjour, merci. Moi, j'ai une question qui va concerner plutôt l'aspect matériel du captif. Est-ce que dans les sources, il est fait mention d'accessoires particuliers pour ces captifs, des entraves, des systèmes de cadenas ? Est-ce que cet aspect matériel, tu le retrouves dans les textes ?
Oui. Oui, oui, tout à l'heure, j'évoquais la vie de Saint Findan. Alors, je n'ai pas expliqué la suite de l'histoire, mais elle est quand même assez atypique. C'est parce que j'expliquais qu'effectivement, le père de Findan voulait à tout prix récupérer d'abord sa fille, mais c'est après Findan qui est mandaté par son père pour aller chercher sa propre sœur. Et ce qui se produit, c'est que la sœur est libérée, mais les vikings le capturent à son tour. Et durant cette captivité, c'est bien mentionné qu'il a été ligoté. Il a été ligoté justement par ses preneurs. Et bon, par la suite, il quitte en fait les îles britanniques. Il est toujours ligoté, mais là, il devient plutôt en fait un prisonnier destiné non pas à être rançonné, mais plutôt à être vendu en tant qu'esclave. Mais oui, il y a bien des mentions d'entrave.
Et le terme d'entrave, il va apparaître sous quelle forme, en fait ? Ça va être...
Alors, là, je ne l'ai pas sous les yeux. Alors, il faudrait que j'aille voir le texte latin dans ces cas-là. Mais là, de tête, je n'ai plus le mot exact. Comment ?
Je pourrais te recontacter par mail et reposer la question.
Bien sûr. Mais de mémoire, il me semble que le mot est utilisé, ça faisait référence à des liens.
Merci.
De rien.
Merci beaucoup à Amélie, donc qui est doctorante également au CRAM. Et je vois qu'il y a une question de Brigitte, donc Gauvin dans le chat. Je pense que tu y as accès.
Oui, bien sûr. Je l'ai sous les yeux. Alors, en quoi la rançon peut être liée à la pacification ou n'ai-je pas bien compris ? Alors, c'est lié à la pacification parce que ça évite justement, ça peut éviter des massacres en fait après une guerre où on préfère sauver la vie des personnes. C'est pour ça que cette pratique est très bien attestée pour la fin 11e ou 12e siècle, où justement, ça va en lien avec l'idéal chevaleresque, en fait, en réalité, d'épargner la vie d'une personne, et puis aussi un idéal religieux, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, ça contribue un peu à pacifier les mœurs, le fait de préférer rançonner son adversaire plutôt que de le tuer. Voilà, j'espère avoir répondu. Attendre la réponse peut-être.
Ah, oui, il semble que ce soit bon pour Brigitte. Je vais voir les autres questions.
Alors, je me permets de revenir sur ta partie de l'législature de rachat. Tu des références faisant intervenir le pape, rappelant peut-être ce que risquent les âmes de ceux qui pratiquent l'esclavage et le rançonnage. Oui, alors... effectivement, à partir du 10e, 11e siècle, le mot d'ordre est plus ou moins celui-ci, c'est-à-dire que l'accumulation de biens commence à être très mal perçue par l'Église, et puis d'autant plus que la pratique des chrétiens qui rançonnent d'autres chrétiens passe de moins en moins bien. Donc effectivement, il y a bien tout un discours là-dessus, et c'est pour ça que en fait l'Église va autoriser, si je prends l'exemple des croisades, les guerriers à rançonner en fait, à rançonner du côté de Jérusalem. Voilà, si vous ne pouvez pas rançonner des chrétiens, rançonner nos adversaires, hein, plus ou moins si. Donc voilà le discours. Alors, peut-on percevoir des différences selon l'âge ou le sexe? Alors, ça, c'est une excellente question auquel je n'ai pas de réponse à donner actuellement parce que les sources ne le mentionnent pas forcément. Alors, le sexe, je pense que oui. De mémoire, dans ce que j'ai lu, on nous parle bien à un moment donné que des femmes, en fait, ont été prises comme captives et rançonner, même si ça ne revient pas souvent dans ce que j'ai pu lire. Oui, ça peut arriver. Là, par contre, pour l'instant, je n'ai pas de mention. Alors, bonjour, j'aurais une question par rapport à d'éventuelles mentions dans les sources de rançon en lien avec l'établissement viking du Groenland, notamment dans les sagas. Alors, pour le moment, je n'ai pas encore poussé assez loin l'investigation, je dirais, dans les sagas islandaises pour pouvoir répondre, tout simplement. C'est prévu. Notamment dans, je parlais tout à l'heure de Snorri Sturluson hein, dans ses écrits, donc c'est prévu que j'étudie cela. Mais je n'ai pas de réponse pour l'instant. De mémoire, pour avoir lu, alors ça remonte déjà un petit moment, mais pour avoir lu les sagas du Vinland, je me souviens pas exactement d'affaires de rançon là-dedans, mais oui, je retournerai voir. Merci pour cette présentation. As-tu des informations sur la place des animaux dans la pratique liée au rançon? Oui, alors j'en ai une en tête. Donc, chez Snorri, en fait, hein, Snorri à un moment évoque la jeunesse du roi Olaf Tryggvason. Elle nous dit que il est captif en fait des Estes, hein, et racheté par un dénommé clerc en fait en échange d'un bouc. Ah, donc bon, c'est un peu trivial de mettre la valeur d'un enfant par rapport à un bouc, ça c'est sûr, mais c'est ce que nous dit Snorri. Olaf Tryggvason, voilà, a été cédé à quelqu'un en échange d'un bouc. Après, à côté de cela, il y a dans d'autres sagas, bon, j'ai pas encore poussé l'investigation assez loin, mais je sais qu'il y a à un moment la mention de la rançon, ce qu'on appelle la rançon de la loutre. Je crois que c'est dans un poème skaldique de mémoire. Il faudra que je retourne voir, mais je sais que ça existe. Donc, je verrai ce que ça peut donner.
Alors, je vois simplement que le temps tourne. Là, je vois beaucoup de. Voilà, ton sujet suscite énormément de questions.
Ça fait plaisir. Bon, j'essaie de répondre comme je peux.
Oui, bien sûr. Donc là, voilà, il y a la question de Victor et celle de Lucie. On pourra peut-être en prendre éventuellement une supplémentaire ensuite. Mais voilà, j'ai rappelé ton adresse mail. Oui. Voilà, ils pourront t'écrire sans problème. Et dans tous les cas, voilà, pour ceux qui le souhaitent, on pourra se dégager un temps à la fin de toutes les interventions. Voilà, si vous voulez réaborder des thèmes en particulier. Mais en tout cas, après les questions de Victor et Lucie, on prendra une question supplémentaire. D'accord. Et on verra ensuite.
Ta période d'étude couvre le processus de christianisation de la Scandinavie. Cela a-t-il un impact sur la pratique de la rançon? Oui, effectivement, ça couvre cette période de christianisation, notamment sur ce qu'on dit Adam de Brême. Y a-t-il un impact sur les pratiques de rançon, pas concernant les peuples qui sont considérés comme païens, c'est-à-dire qu'en fait, évidemment, eux continuent en fait de rançonner les chrétiens. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est plutôt des païens qui rançonnent des chrétiens. J'espère t'avoir répondu correctement. Alors, ensuite, si le statut de prisonnier apparaît plus que l'âge dans les sources, cela peut être quand même un signe. L'attention de l'auteur, plus un complément qu'une question. Oui. Bien sûr, effectivement, dans le discours, des auteurs, de ce que j'ai pu en lire pour l'instant, il est plus question du statut de la personne. C'est-à-dire, on nous mentionne que, par exemple, voilà, c'est un diacre, ou alors ce sont de la confession, ce sont des chrétiens qui ont été capturés, ou alors des païens, voilà. Donc ça, oui, c'est plus le statut et l'appartenance, je dirais, à un groupe social de l'individu. Et effectivement, oui, Lucie Malbos, faisant partie de mon comité de suivi, hein, je précise, j'aurai l'occasion, d'ailleurs, d'ici peu de temps, d'en reparler avec elle. Oui, groupe social ou religieux.
Parfait, merci pour cet échange. Alors, je vois bon, voilà, qu'il y a une question en préparation dans le chat. Je pense que pour avancer, je te laisserai peut-être à ce moment-là répondre directement dans le chat à cette question qui est en train d'être rédigée. Et
oui.
Il ne me reste plus qu'à te remercier vraiment sincèrement pour ce travail. Donc, vraiment, on a pu, voilà, tu as pu, il y a un côté très pédagogique au début que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Puis voilà, tu as pu expliquer clairement ta démarche jusqu'à tes premiers constats.
Pareillement, je tiens à te remercier pour l'organisation de cette journée et m'avoir fait participer. C'était vraiment un plaisir. Alors, j'espère ne pas avoir été trop confus parce que c'est pas évident de parler face à un écran, on voit pas son auditoire. Je suis pas habitué à ce genre de choses. Voilà, c'est la première fois que je faisais ça à distance. Bon, j'espère avoir été clair dans ce que j'ai exprimé. Et puis oui, n'hésitez pas, hein, étant donné que Guillaume a donné mon contact, si vous avez des questions, il n'y a aucun problème, vous pouvez me contacter et j'y répondrai avec plaisir. Alors, une question de Ryan Lavelle, très intéressante. Pensez qu'une valeur de 40 livres pour un évêque, c'est chiffologue dans la chronique anglo-saxonne, tout à fait. Je crois que 40 livres est la valeur dans Domesday Book des certains territories sur la frontière de Bellingham. D'accord, bah merci pour cette pour cette mention. Très intéressant. D'accord. Mais j'irai voir ce qu'il y a dans ces cas-là dans le Domesday Book. Merci. Merci pour cette précision.
Très bien, merci beaucoup pour ces
échanges.
Merci encore, Jean-Louis.